Le thème de ce matin, l'Église est la maison de Dieu vivant. Quel ancien et quel profil pour nous aujourd'hui? L'Église est la maison de Dieu vivant. Quel ancien et quel profil pour nous aujourd'hui? Je vais aborder ce thème à trois niveaux. Le premier niveau, je vais parler de l'ancien comme leader, l'ancien de l'Église comme leader. Au deuxième niveau, une exigence de taille d'un ancien de l'Église. Et je terminerai par une question. Qu'est-ce qui fait la solidité de l'Église? Amen. L'ancien dont il est question au premier verset du chapitre 3 de la première à Timothée est appelé dans la version la TOB, si quelqu'un, elle est digne de confiance cette parole, si quelqu'un aspire à l'épiscopat. Si quelqu'un aspire à être évêque, je crois dans certaines versions. Épiscopat, pourquoi? Parce qu'en fait, le mot ancien vient des mots grecs épiscopos, qui signifie surveillant, qui signifie chargé de diriger, en tout cas chargé de prendre soin d'une communauté. Ce texte ici, c'est le même que l'on lit lorsqu'il y a ordination des pasteurs. Parce qu'en fait, dans la succession qu'a connue l'Église, il y a eu Jésus de Nazareth qui a fondé un mouvement que les théologiens appellent le mouvement de Jésus de Nazareth, avec un certain nombre de disciples qui l'ont suivi, dont les femmes, parmi lesquelles les apôtres, et qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Jésus a donc inauguré une ère nouvelle avec une nouveauté par rapport à l'ancienne alliance et il a mobilisé des gens autour de lui qui ont fondé, après lui, ce n'est pas Jésus qui a fondé l'Église chrétienne, après lui, ce qu'on appelle l'Église chrétienne. Mais après Jésus, viennent maintenant les apôtres, communément appelés les 12. Parmi lesquels il n'y a pas de femmes, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de femmes comme pasteur disent « Jésus n'a jamais choisi de femmes apôtres. » Jésus en a eu. Jésus a eu de femmes apôtres. Mais ce n'est pas ça notre problème maintenant. Après les apôtres, il y a eu des anciens. Ce sont ces anciens, effectivement, qui ont pris le relais après les apôtres pour commencer à diriger l'Église. Et donc, anciens, ce sont des personnes appelées à diriger l'Église. C'est pourquoi je commence par dire qu'un ancien de l'Église, c'est un leader. D'ailleurs, à l'Église pentecôtiste, quand quelqu'un est désigné ancien, on l'appelle souvent pasteur. Mais nous, à la CBK, il y a des anciens, il y a des pasteurs. Dans la CBK, là, la CBK vient trop loin. Il y a un moment, il y avait des pasteurs et puis il y avait des révérends. On vous consacrait comme pasteur, comment vous avez eu ça? On vous donne une croisette. Mais quand vous devenez révérend, maintenant, on vous met ce qu'on appelle l'école pastorale. Nous, nous sommes les tout premiers pasteurs dans la CBK en 1999 à être consacrés et ordonnés au même moment. Mais avant nous, il y avait d'abord les pasteurs, les anciens, les pasteurs et les révérends. Alors, quand tu rencontrais un pasteur, un révérend, si tu lui dis, « Tiens, mon pasteur, c'est maintenant, il est révérend, Maya Chawal. » Nous, nous sommes vraiment la toute première génération. Nous n'avons pas passé par le pastorat, nous avons directement donné et la croisette et le col pastoral. Alors à la CBK, donc, il y a eu par le passé les anciens, les pasteurs et puis les révérends. Maintenant, il y a bastien et révérend, pasteur. Alors, l'ancien, c'est un dirigeant, c'est ça que je veux dire. L'ancien est chargé de diriger, de prendre soin de la communauté avec le pasteur. Parler de l'ancien de l'église aujourd'hui à Goma Ouest voudrait dire que c'est un leader. Il faut donc le découvrir et l'aborder comme une personne d'influence. Cette influence doit être positive, il ne faut pas qu'elle soit négative. Il est généralement connu que chaque homme, chaque femme est une personne d'influence. Il y a des choses que les enfants font parce qu'ils ont vu maman les faire, n'est-ce pas? Il y a des choses que les enfants font parce qu'ils ont vu papa les faire. Chaque jour, vous devez être conscient que vous êtes une personne d'influence. Il semble même, il y a une recherche qui a établi qu'une personne est en mesure d'influencer en moyenne 4 personnes par jour. Mais des gens qui ont une très grande influence peuvent influencer au moins 17 fois. C'est-à-dire que chaque acte que vous posez, chaque parole que vous prononcez, influence, consciemment ou inconsciemment. Nous devons donc comprendre que l'ancien de l'Église, c'est un leader, mais en tout cas, est par-dessus tout une personne d'influence. Il est appelé à revêtir comme qualité une influence spirituelle par des habitudes qu'il cultive dans sa vie de chaque jour. On ne peut pas se tromper, on peut voir seulement dans sa vie de chaque jour qu'est-ce qu'il est, sa vie de prière, son amour pour la parole de Dieu et son attachement à cette parole au point d'obéir à cette parole, sa constance dans la piété, parce que les situations de crise sont des moments d'épreuve, des moments d'examen par lesquels de temps en temps le Seigneur nous fait passer. Il faut qu'on constate que tu es constant, que tu restes inébranlable en dépit des situations qui envahissent ta vie, sa foi et sa patience, mais aussi sa discipline personnelle. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'avant de conquérir le monde, le leader spirituel doit être en mesure de se conquérir prioritairement lui-même. Donc, quand nous observons les gens autour de nous qui peuvent être anciens de l'Église, nous ne pouvons pas facilement nous tromper. Il faut aussi qu'on constate qu'il a une influence sur son sens de l'organisation. Comment il gère son temps? Comment il planifie son temps? Par quoi il commence? Hier, nous étions dans une méditation dans notre consistoire et nous avons lu, j'ai conduit la méditation sur le psaume 63, qui est le texte de la méditation du lecteur d'hier. Et dans ce chapitre, psaume 63, il y a un verset qui dit « Mon Dieu, tu es mon Dieu, dès l'aube, je te désire, non pas je te cherche, je te désire, mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi. » Ça nous a quand même surpris de constater qu'il parle de son âme qui a soif du Seigneur, mais il parle aussi de sa chair qui languit après le Seigneur. N'est-ce pas que Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comment peut-il arriver que l'âme et l'esprit s'accordent dans les désirs de Dieu? Ça signifie qu'à un moment donné, il faudra discipliner la chair, n'est-ce pas? Il faut être en mesure de discipliner la chair, comme nous venons de le dire, avant de conquérir le monde,
Un leader spirituel doit être en mesure de se conquérir d'abord lui-même.
Ah, il arrive souvent, on veut se réveiller, je l'ai dit hier dans la méditation, et vous sentez que le sommeil c'est bon, et vous dites, comment il a les cadeaux. Et puis quand les cadeaux, quand on voit Camille. C'est ça. Parce que tu n'as pas discipliné la chair. Et c'est ça qui fait que nous avons des gens qui ne viennent pas aux activités de la semaine. Ce n'est pas vraiment qu'ils ne veulent pas, mais ils disent souvent, « Va quoi dans les cadeaux. » Et puis le temps passe. Et ils se disent, « Ah, il faut donc une discipline personnelle. Conquérir son propre moi, conquérir sa propre chair, soumettre, assujettir sa propre chair. Ça, c'est la première chose, si vous voulez souligner. La deuxième, une exigence de taille d'un ancien de l'Église. Si nous lisons le 1 Timothée chapitre 3 que nous venons de lire tout à l'heure, ce qui est exigé d'un ancien, si vous lisez très bien ce passage, il n'est pas question de la foi, ça m'a, c'est curieux quand même. Il n'est pas question de la foi dans les qualités qui sont ici. Il n'est pas question de l'amour ou de la persévérance, mais on insiste ici dans ce passage sur le noble caractère qu'on attend des responsables de l'Église. Et la grande insistance, c'est la bonne réputation. Si vous résumez ce passage, les 7 versets que nous venons de lire, un responsable de l'Église, ancien ou pasteur, doit avoir une bonne réputation. Pourquoi il a été indispensable qu'on insiste sur ça? Si vous lisez l'introduction aux épîtres 1 et 2 Timothée, vous allez constater que il est question ici d'une période assez difficile par laquelle était en train de passer l'Église, où les faux docteurs sont en train de répandre la fausse doctrine, les faux enseignements. Un peu comme Jules Moulin-Doy et beaucoup d'autres dans la vie. Ils ont fait des fausses prophéties et maintenant ils sont en train de corriger ces fausses prophéties par rapport à l'élection. Alors, ces faux docteurs, ces faux enseignants, souvent autour de nous aujourd'hui des télé-évangélistes, ils ont presque tous, en tout cas la radio et la télévision, il y en a ici à côté de nous sur la route. Ils construisent assez facilement les temples, alors que nous, on prend même 5 ans pour construire. Parce que c'est ce qu'on appelle la puissance de l'égarement. Les gens sont facilement en train de suivre, entraînés dans la puissance de l'égarement. Et là, ils peuvent facilement donner l'argent, croyant qu'ils sont en train de donner à Dieu. Ce n'est pas ça notre problème. Mais ici, je voudrais souligner qu'il y avait des faux docteurs, des faux enseignants qui sont en train de répandre la fausse doctrine, et ces fausses doctrines, on pouvait facilement les constater en quoi ils étaient faux, leurs enseignements, par le comportement du ministre. Lorsqu'on constatait une inadéquation entre ce que la personne enseigne et ce que la personne est en train de vivre, on pourrait facilement se dire, celui-ci, c'est une fausse enseignante. Vous comprenez? Voilà pour quelle raison on insiste sur les qualités d'un dirigeant de l'Église. Il faut qu'il ait de la bonne réputation. Parce qu'ils étaient en train de vivre dans un environnement avec la perversion des mœurs. Et donc, il fallait que les dirigeants de l'Église prennent distance de certaines pratiques et qu'ils aient un noble caractère, une manière de vivre qui va au-delà de ce que les communs des mortels sont en train de vivre. Donc, les responsables de l'Église doivent être sans ou alors au-delà de tout reproche. On peut se poser la question, est-ce qu'il est devenu un ange pour qu'il soit au-delà de tout reproche? C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qu'on ne devrait pas voir en lui. On peut peut-être les voir ailleurs, mais pas chez lui. Alors, il y a des questions essentielles dans lesquelles on insiste ici
La première chose, mari d'une femme. La maman, quand elle s'est présentée, elle a dit que y a une mouke wa oume moja na watoto kumina moja parce que le Seigneur l'a beaucoup béni. Mari d'une seule femme. Ça peut signifier quoi? Il y a eu plusieurs interprétations par rapport à ça. Mais la meilleure interprétation, c'est que... Je vais d'abord donner les deux interprétations radicales. J'en ai parlé la fois passée, quand nous étions dans un débat au séminaire. Ça peut être question, la première interprétation radicale, ça peut être question d'être fidèle à sa femme et de n'avoir jamais trompé sa femme. Donc, s'il y a quelqu'un ici, depuis qu'il est marié, a déjà trompé sa femme, il ne peut plus être ancien de l'Église. Même si on le désigne, il faut qu'il dise pasteur, mais en tout cas, c'est Staïl. Même si sa femme n'est pas informée, il faut qu'il vienne me voir. Il dise en tout cas, moi, même si les autres croient que je peux être ancien de l'Église, je ne peux pas. Même une seule fois, tu ne peux pas être ancien de l'Église. Deuxième interprétation radicale, c'est que si quelqu'un a perdu sa femme et qu'il se remarie, il n'est plus mari d'une seule femme. J'ai dit, ce sont des interprétations radicales. Ce sont des interprétations radicales, donc il ne faut pas aller lire, parce que vous devez enseigner. Parce qu'il y a plusieurs interprétations de ce passage. Maintenant, l'interprétation que je propose, c'est que il doit entretenir une vie conjugale fervente. Vous comprenez? Fervente, ferveur, ça signifie que tu as aimé ta femme alors qu'elle était jeune fille. Moi, je me suis marié à Chantal, elle avait 20 ans. Donc, jusqu'à 60 ans, tu continues à l'aimer. C'est ça la ferveur. N'est-ce pas? Mais si tu commences à regarder ailleurs, tu dis, mais là, ce n'est pas la ferveur. C'est pourquoi la Bible insiste sur la fidélité à la femme de sa jeunesse. Cette femme que tu as choisie, et les femmes doivent aussi nous aider, il faut rester très attrayante, il faut continuer à nous attirer. Il ne faut pas porter l'ivaille à couleur verte et puis un panier d'une autre couleur et puis les souliers d'une autre couleur. Il faut rester en train de nous attirer pour que nous ne puissions pas regarder ailleurs. J'attire l'attention des femmes de Goma Ouest d'être très propres, d'être très, et vous l'êtes en tout cas, continuez à l'être, et que le Seigneur vous aide pour que les anciens que nous sommes, nous continuons à rester fervents. C'est la ferveur. Le désordre dans la chambre n'est pas admis, dans les salons non plus, dans la cuisine non pas, la propreté, même des enfants, c'est très important. Donc, le responsable est donc appelé à entretenir certaines ferveurs, une vie conjugale ferveur, fervente, envers ce qu'on appelle la femme de la jeunesse. Mais il y a aussi une insistance sur la monogamie. Il n'est pas question d'avoir une deuxième femme. Il faut qu'il soit au sobre, il faut qu'il soit donc tempéré, modéré, dans sa manière de se comporter, mais aussi dans sa manière de parler. Il ne fait pas de blagues à tout bout de champ. Il ne dit pas n'importe quoi. Il faut qu'il soit d'une bonne tenue, c'est-à-dire respectable. Dimanche passé, il y a des gens qui m'ont reproché. Il semble que je n'étais pas bien habillé. Il y a des jeunes qui sont venus me voir. Pasteur, cette tenue, ce n'est pas la tienne. J'étais malade, excusez-moi.
Parce qu'on m'a jamais vu à Tite ce dimanche, encore moins en quête les dimanches. Alors c'est comme si c'était un scandale. Alors je demande pardon, mais il faut savoir que j'ai une blessure au niveau de mon orteil droit. Et c'est difficile de mettre des souliers. Je viens d'essayer ce matin. Donc c'est ça. Donc, bonne tenue. Donc il y a des choses qu'on n'attend pas d'un serviteur de Dieu. Je ne sais pas, on est suffisamment exigeant, qu'on risque même d'être exigeant vis-à-vis de votre vache, de votre chèvre et même de votre porc. Je crois vous avoir déjà dit qu'un porc de quelqu'un est allé ravager les champs d'un voisin. Et on a commencé à taper sur les porcs en disant que est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez. Voilà pourquoi on est aussi exigeant vis-à-vis des enfants des pasteurs, comme si eux aussi sont pasteurs, alors qu'ils ne le sont pas. Alors la responsabilité du responsable de l'église vient du fait qu'il a pris une noble tâche. Une noble tâche, et il est redevable à trois niveaux. Je voudrais te dire ça avant de terminer ce deuxième point. Il est redevable à trois niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il est redevable envers la société. On doit le voir au-delà de tout reproche. C'est ça, c'est ce que je venais de dire. Il est aussi redevable envers lui-même. Il doit faire preuve de retenue en parole et en acte. Il doit se libérer des vices, des défauts, des mauvaises habitudes, peut-être que se sont accrochées à lui, qui risquent de le rendre fructueux et rendre sa parole et son témoignage inefficaces. C'est-à-dire qu'il doit veiller sur lui-même. Il est aussi redevable pour la troisième fois maintenant envers sa propre maison. Il doit bien diriger la famille. Je venais de dire que la vie conjugale qui le caractérise doit être une vie conjugale fervente. Mais il doit maintenir ses enfants dans l'obéissance. C'est-à-dire que si un responsable de l'église, tous les enfants sont de mauvais caractères, de mauvaises vies, c'est un malheur. C'est une malédiction. Mais il peut ne pas être responsable sur toute la ligne. On souhaiterait qu'il soit quand même un modèle dans sa famille, de manière à ce qu'il se fasse respecter prioritairement dans sa famille, pour qu'à l'extérieur, on soit aussi à mesure de l'homme. L'ancien de l'Église, ou le responsable de l'Église, pour influencer sa femme et ses enfants, doit être une autorité spirituelle. Son leadership, celui qui doit transmettre, il doit transmettre quelque chose de plus grand. Et c'est quoi? C'est quoi? C'est la présence réelle de Dieu dans sa vie. Si un enfant tombe dans le péché, il faut qu'il ait honte de le faire parce qu'il est conscient que il ne l'a pas appris de qui? De son père ou de sa mère. Les enfants et l'épouse chercheront à vivre cette onction qu'il transmet le dimanche pendant qu'il prêche. Cette onction que les gens voient dans sa propre vie, il faut que cette onction, ses propres membres de sa famille recherchent ça. Pour qu'eux aussi, chacun à son tour, puissent suivre le Seigneur et le servir. Parce que la paroisse du responsable de l'Église, la première paroisse du responsable de l'Église, c'est d'abord sa maison. Voilà pourquoi il faut prier pour eux. Vous avez la responsabilité de prier pour eux parce que très souvent, ils sont la cible de l'ennemi et même leurs enfants sont la cible de l'ennemi. Je connais un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, en Suisse, dont leurs enfants se sont suicidés. Et il faut voir comment ces pasteurs-là, tous les deux sont des grands professeurs d'université, des pasteurs en plus,
Ils ont souffert. Il y a même une femme, pasteur, qui a écrit un livre pour montrer à quel niveau elle a une grande douleur de voir que ce soit son fils qui se suicide. On dit qu'il y a des choses qui peuvent arriver et ça fait mal à la personne qui en est victime, et c'est souvent les parents. Pour terminer, qu'est-ce qui fait la solidité de l'Église? Je voudrais dire une chose, pas beaucoup. Les textes que nous avons lus dans 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 3, le verset 15 dit: toutefois, si j'établis, tu sauras ainsi comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, colonne et soutien de quoi? Soutien de la vérité. Colonne ou alors appui de la vérité. L'Église est solide par la vérité qu'elle confesse, qu'elle proclame. Cette vérité-là, qui est le Christ mort et ressuscité, qui a le pouvoir de transformer des vies et qui transforme réellement des vies, qui m'a transformé, qui t'a transformé, qui peut te transformer, c'est ça qui constitue la solidité de l'Église. Et donc, voilà pourquoi dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, verset 19, on dit que l'Église est une grande maison. À cause de quoi? Toujours à cause de la vérité qu'elle professe. Mais aussi par rapport aux hommes et aux femmes qui sont membres de cette Église et qui représentent cette Église à l'extérieur. Quand nous disons que nous voulons être une Église rayonnante, ça signifie quoi? Ça signifie que partout où vous êtes, vous faites quoi? Vous rayonnez. Si vous ne le faites pas, vous faites de Goma Ouest une petite maison. N'est-ce pas? Une petite chapelle. D'ailleurs, on l'appelle chapelle. Donc, on dit chapelle et tout. Cadeau. Parce que la manière dont vous la représentez ne témoigne pas, effectivement, que cette Église est une grande maison. Il faut qu'on constate que les membres de cette Église sont des colonnes. Des colonnes qui affirment leur appartenance à Dieu, à Christ. Et leur manière de vivre doit témoigner effectivement que ce sont des colonnes, des références. Et l'ancienne l'Église, un responsable de l'Église, un membre de l'Église qui se veut rayonnante comme la nôtre, doit se reconnaître comme une colonne inébranlable. À cause de quoi? À cause de la vérité qu'il proclame. Comment il vit dans sa maison? Comment il vit là où il travaille? Comment les étudiants le voient ou les enseignants, les élèves le voient? Comment les malades te voient, infirmières ou médecins? Comment les collègues qui travaillent avec toi dans le monde des affaires te voient? Comment les collègues de classe, de promotion te voient? Comment les voisins et voisines te voient? Les membres de la famille te voient? Tout ça, ça doit nous amener à dire, est-ce que nous sommes devenus des colonnes? Parce que la colonne, en fait, dans un bâtiment qui assure la solidité du bâtiment, n'est-ce pas? Il est le signe extérieur qui, effectivement, assure la solidité. Il y a des colonnes qui sont dans les murs, n'est-ce pas? C'est ça que vous puissiez le voir. Mais il y a aussi des colonnes on peut facilement les voir. Mais les véritables colonnes doivent être en mesure d'être perçues dans la société. Que le Seigneur nous aide à bien remplir notre ministère, de faire un très bon choix des anciens de l'Église. Ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes, des femmes de chair, mais en fait qui doivent être des références que vous voulez suivre comme modèle et qui constituent les modèles pour vous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.